France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin la secrétaire générale de la CGT. Question-réaction au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Sophie Binet, bonjour.
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 Et bienvenue à ce micro. Beaucoup de questions à vous poser ce matin sur la situation alarmante des finances publiques, sur l'assurance chômage, sur l'emploi des seniors. Mais commençons par les JO. Vous avez annoncé il y a quelques jours que vous déposeriez un préavis de grève sur toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques dans les trois fonctions publiques, État, collectivités territoriales et hôpitaux. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que vous êtes prêt à faire la grève pendant les Jeux ?
Alors, ces préavis ne sont pas encore déposés. Le problème de fond, c'est que le gouvernement méprise tellement le monde du travail qu'il n'a pas compris que la réussite des JO dépendait du travail de centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs. Et que ça s'organise en amont. Le souci, c'est qu'il y a une impréparation totale sur toutes les questions sociales liées aux Jeux. Il a fallu que nous menacions de déposer des préavis de grève pour qu'enfin une table ronde soit organisée hier au ministère de la fonction publique, lors de laquelle nous avons eu de premières réponses, mais le compte n'y est pas du tout, parce que par exemple nous n'avons pas parlé de la fonction publique hospitalière, donc nous n'avons aucun élément sur la situation dans les hôpitaux, comment les recrutements nécessaires vont être réalisés. Nous ne savons toujours pas comment les agents qui vont devoir venir à Paris pour renforcer les services vont pouvoir être logés, comment leurs enfants vont pouvoir être pris en charge, et nous n'avons aucune réponse sur la question des salariés du privé.
Mais puisque vous parlez des hôpitaux, vous nous dites qu'il y a une possibilité que les hôpitaux soient en grève pendant l'été, pendant les JO.
Ce que je dis surtout, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune garantie que les hôpitaux puissent fonctionner normalement pendant l'été et faire face à l'afflux de visiteurs. Il est là le problème, c'est que nous avons des hôpitaux qui étaient en catastrophe l'été dernier avec une surmortalité liée au manque de soignantes et de soignants, que là, nous savons qu'il va y avoir des millions de visiteurs et que nous n'avons aucun plan de continuité pour assurer ce surcroît de prise en charge de malades.
Donc, si vous n'avez pas vos réponses, sur les hôpitaux notamment, vous ferez grève.
Le but, c'est évidemment que les JO soient une réussite. Mais pour ça, il faut que le gouvernement réponde aux questions que nous posons et cesse de penser qu'il peut tout imposer en force en méprisant la situation des travailleuses et travailleurs. Mmh. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol très fort dans le monde du travail. C'est plus possible, par exemple, que les entreprises de la sécurité qui ont des marchés énormes avec les JO disent aux travailleurs et travailleuses, vous n'aurez pas de congés payés cet été et vous n'aurez même pas de primes. Parce que c'est ça, aujourd'hui, la situation dans le privé.
Et vous demandez quoi ? Un alignement des primes des fonctionnaires sur les primes que vont obtenir les policiers, c'est ça?
Alors,
que vous obtenez
déjà, oui,
c'est
effectivement, nous demandons l'égalité dans la fonction publique, à ce que l'ensemble des fonctionnaires soient traités à la même enseigne avec des critères communs qui garantissent des primes communes. Par exemple, les policiers nationaux ont obtenu des primes, on n'a aucune réponse pour les policiers municipaux, c'est quand même un problème. Et nous demandons également avoir des réponses sur les salariés du privé. C'est la raison pour laquelle je demande au Premier ministre immédiatement d'organiser une table ronde à Matignon pour traiter aussi de la question des salariés du privé. Après, je comprends qu'il est en campagne électorale, qu'il a besoin de faire de la com et que c'est sa priorité. Mais là, l'objectif pour la réussite des Jeux, c'est d'y travailler sérieusement et d'organiser la discussion avec les organisations syndicales.
À ce micro, sur Inter, le ministre des Transports, Patrice Vergriete, déclarait le 28 février, je le cite, « Je ne crois pas un seul instant que les ouvriers, les salariés, les syndicats mettront en péril l'image de la France ou l'image de leur entreprise prise aux yeux du monde entier. » Que lui répondez-vous ?
Mais que les salariés, ils demandent juste des réponses à leurs questions très précises. Par exemple, aujourd'hui, il y a de très nombreuses entreprises qui vont être dans des périmètres de sécurité liés aux Jeux auxquels on ne pourra pas accéder. Les salariés ne pourront pas travailler. Quelle va être la compensation pour ces salariés ? Est-ce qu'ils auront le chômage partiel à 100 %? On le sait toujours pas. Est-ce qu'ils vont être obligés de télétravailler chez eux alors que pour beaucoup, au mois d'août, les logements sont inhabitables ? Nous voulons des tiers-lieux pour pouvoir télétravailler. Voilà le genre de questions que nous posons qui sont quand même juste totalement normales et naturelles. Il faut que le gouvernement s'en préoccupe.
Mais c'est la moindre des choses. Les questions que vous posez ce matin, elles sont absolument audibles, mais en même temps, la menace de la grève fait que les gens qui entendent ça, ils se disent, on va accueillir des millions de touristes étrangers à Paris pour cette fête qui est une fois tous les 100 ans, et la CGT menace donc de faire une grève. Donc c'est vrai que vous comprenez quand même qu'il y a des gens qui peuvent entendre ça en se disant, elle nous annonce que Urbi et Orbi, il y aura grève et bienvenue en France, quoi.
Bah, d'abord, c'est pas ce que je dis. Et ensuite, ça fait 6 mois qu'on pose la question très calmement, de façon très répétitive, sur laquelle nous n'avons aucune réponse. La CGT, elle est impliquée depuis plusieurs années dans la réussite des Jeux. C'est la CGT qui s'est battue pour obtenir une charte sociale liée aux Jeux Olympiques. C'est une première mondiale. C'est cette charte sociale qui a permis de diviser par 4 le nombre d'accidents sur les chantiers liés aux JO, puisqu'il y a eu toute une organisation de dialogue social avec des représentants du personnel supplémentaire, plus de contrôle de l'inspection du travail. Maintenant, la charte sociale, c'est pas juste un bout de papier, ça doit être mis en place et il faut répondre aux questions sociales posées par les travailleuses et travailleurs qui, je le dis fermement, n'accepteront pas de travailler à n'importe quel prix pendant l'été avec des chantages permanents sur « vous n'allez pas abîmer l'image de la France quand même ». Bah oui, sauf qu'on a des droits.
Sophie Binet, à 372 voix pour, les députés ont voté l'accord de sécurité franco-ukrainien qui prévoit de verser 3 milliards d'euros supplémentaires à la résistance ukrainienne. Soutenez-vous ce geste de la France pour les Ukrainiens bombardés par le régime russe ?
Nous soutenons les Ukrainiens qui sont sous les bombes russes et qui, avec beaucoup de morts, de blessés, de destruction humaine, une remise en cause aussi de leur liberté par le gouvernement au prétexte de la guerre, avec nos camarades syndicalistes ukrainiens qui nous disent que la situation elle est très grave là-bas. Et oui, il faut réussir à sortir de cette situation au plus vite.
Et les 3 milliards sont nécessaires, même si ça grève le budget de l'État, quoi.
Mais le problème, c'est que d'un côté, on a des budgets de l'armement qui atteignent des niveaux records, et de l'autre côté, on nous impose des reculs dans des dépenses publiques qui sont fondamentales, comme la recherche ou l'environnement, par exemple.
Justement, venons-en à la situation des finances publiques. La Cour des comptes a remis hier son rapport annuel, et même si c'est vrai que la Cour tire chaque année des sonnettes d'alarme sur la situation de nos finances publiques, là, le rapport est particulièrement préoccupant. Nous sommes au pied du mur, dit Pierre Moscovici. Les finances publiques de la France seront parmi les plus dégradées de la zone euro cette année. La Cour, qui juge par ailleurs que les prévisions de croissance du gouvernement, pourtant revues à la baisse, restent trop optimistes. Est-ce que cette situation vous inquiète ? Est-ce que vous partagez l'alarme générale ? Vous craignez, vous aussi, que, tout simplement, on soit à l'os aujourd'hui ?
Oui, la CGT est très inquiète parce que la dette a augmenté d'un tiers sous la présidence d'Emmanuel Macron et que c'est une dette qui est négative parce que ça n'est pas une dette qui permet de financer des investissements d'avenir. La Cour des comptes alerte sur l'absence de planification et d'investissements environnementaux, par exemple. C'est une dette qui s'explique par la multiplication de cadeaux aux plus riches, notamment la suppression de l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes, la baisse de la fiscalité des grandes entreprises, la multiplication des aides non conditionnées aux entreprises qui atteignent quand même, je le dis ici, 200 milliards chaque année d'aide aux entreprises, ni conditionnées, ni évaluées. C'est un tiers du budget de l'État.
C'est de l'investissement.
Ah bah non.
Ça contribue à l'attractivité de la France.
Alors ça peut être débattu, mais il y a de très nombreux rapports qui existent, par exemple sur le crédit impôt recherche, c'est 7 milliards par an. Il y a de très nombreux rapports qui montrent que ce crédit impôt recherche n'est pas efficace. Sanofi a empoché 1 milliard de crédit impôt recherche en 10 ans. Dans la même période, il a divisé par 2 ses effectifs de chercheurs. Donc il faut effectivement remettre à plat ces aides publiques aux entreprises qui grèvent notre budget.
Bruno Le Maire a prévu 10 milliards d'euros d'économies de plus cette année. 20 milliards en 2025. Ce n'est pas assez, répond Moscovici, Pierre Moscovici, qui dit qu'il faudrait 50 milliards d'euros d'économies pendant 3 ans si on veut sortir la tête de l'eau. Comment voyez-vous cette perspective ?
Ben, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement, c'est Robin des Bois à l'envers. C'est-à-dire, c'est prendre aux pauvres pour donner aux riches. Avec ces 10 milliards de coupes et puis les 20 milliards annoncés, on sait que ça va principalement porter sur nos services publics, nos hôpitaux, nos écoles, nos universités, que ça va être des coupes dans les dépenses sociales, notamment les retraites, les allocations chômage, etc. Tout ça pour surtout ne pas toucher à la fiscalité des plus riches et à la fiscalité des grandes entreprises. Donc, c'est totalement injuste. Et le deuxième problème, c'est un problème économique. Un certain nombre d'experts, même du FMI, alertent sur le danger récessif de ces coupes violentes dans les dépenses publiques qui vont nous enfermer dans la spirale de l'austérité et vont accentuer la crise économique.
Où est-ce qu'on trouve l'argent quand vous entendez Pierre Moscovici qui demande 50 milliards d'économies par an pendant 3 ans ? C'est colossal, 50 milliards. Vous les trouvez où ?
Eh bien, on a plein de propositions. Par exemple, les aides à l'apprentissage coûtent un pognon de dingue, pour reprendre les termes d'Emmanuel d'Emmanuel Macron, puisque depuis sa présidence, elles s'élèvent maintenant à 16 milliards d'euros chaque année, avec des rapports qui disent que c'est inefficace, donc il faudrait aller taper là-dedans.
Donc on arrête les aides à l'apprentissage.
On les évalue et une partie on les arrête, oui. Mmh. On rétablit l'impôt sur les grandes fortunes, ça nous a fait perdre quasiment 5 milliards par an.
Mais ce que j'allais vous dire, c'est 4 milliards par an, l'ISF, c'est très bien, ça ferait 4 milliards de plus.
4,5
si vous voulez, mais enfin on est loin des 50 milliards.
Déjà c'est la moitié des 10 milliards de coupes qui nous sont imposées cette année. Et puis si vous vous attaquez justement aux 200 milliards d'aides publiques aux entreprises sans contrepartie, là il y a de la marge de manœuvre. Et puis enfin, moi ce que je veux dire, c'est que la situation elle est grave aujourd'hui, puisque on nous demande à nous de faire des sacrifices, et on est dans un contexte où les Françaises et les Français s'appauvrissent directement avec des salaires qui ne suivent pas l'inflation et avec des services publics qui craquent de partout, quand dans le même temps le CAC 40 atteint des records avec des dividendes qui n'ont jamais été aussi élevés. Plus de 60 milliards de dividendes et 30 milliards de rachats d'actions. Les rachats d'actions, c'est quoi? C'est juste de la destruction de valeur. C'est 30 milliards qu'on a détruit de la valeur créée par notre travail. C'est un énorme hold-up qui est très grave.
Question Sophie Binet sur l'assurance chômage. Elle a déjà été durcie depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Gabriel Attal veut aller encore plus loin. Dans le JDD, le 25 février, le Premier ministre déclarait que la durée d'indemnisation peut encore être réduite et qu'on pouvait encore accentuer la dégressivité des allocations. Est-ce que c'est une ligne rouge pour vous? Est-ce inenvisageable?
Oui, le disque est rayé, c'est un discours qui est totalement obscène. Les coupes précédentes nous ont été imposées au prétexte que la situation sociale et de l'emploi s'améliorait, et donc on pouvait baisser les droits des privés d'emploi parce que il y avait moins de chômage. Là, aujourd'hui, le chômage augmente parce que la politique économique du gouvernement est un naufrage, et on nous dit qu'il faut encore baisser les droits des privés d'emploi. Il faut arrêter.
Le chômage est à son plus bas depuis des dizaines, oui, des vingtaines d'années. Vous convenez quand même qu'il y a 2 millions d'emplois qui ont été créés depuis 2017.
Eh bien là, le chômage est en train d'augmenter, nous le voyons sur le terrain.
Légèrement,
mais ça ne va. C'est d'ailleurs ce que dit la Cour des comptes, avec des défaillances d'entreprises qui se multiplient, une situation dans l'industrie qui est très mauvaise du fait de la politique du gouvernement et notamment de l'augmentation des coûts de l'énergie. Dans ce contexte-là, rogner encore sur les droits des privés d'emploi, c'est gravissime.
Bruno Le Maire déclarait « La réforme de l'assurance chômage est indispensable parce que nous gardons la durée d'indemnisation la plus longue parmi les pays développés, 18 mois ». Qu'est-ce que vous lui répondez?
Eh bien que à cause de leur réforme, il y a à peine un tiers des privés d'emploi inscrits à Pôle emploi qui sont indemnisés, que 40% des privés d'emploi sont sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui a doublé, et qu'il faut arrêter de stigmatiser les chômeurs.
Autre piste, le gouvernement veut aligner, vous le savez, la durée d'indemnisation des seniors au chômage sur celle des autres chômeurs, c'est-à-dire en gros passer de 27 mois à 18 mois comme tout le monde, pour éviter, dit Bruno Le Maire, que le chômage ne soit considéré comme une pré-retraite. Qu'est-ce que vous répondez là aussi ?
Qu'il faut arrêter la guerre aux seniors. On a un gouvernement qui nous a imposé une réforme violente et qui nous a imposé de travailler 2 ans de plus. On a des entreprises qui continuent à licencier par milliers des seniors, et maintenant un gouvernement qui nous explique qu'il va supprimer les allocations chômage des seniors. Il faut arrêter de se moquer du monde. Et puis ce que j'ai envie de dire à Bruno Le Maire, c'est que visiblement il n'a pas compris qu'il n'est ni ministre du Travail ni Premier ministre.
Bon, le message est passé.
Alors, des questions sur l'application de France Inter. Guillaume vous rappelle que la dette de la France a permis de sauver des millions de travailleurs lors du Covid. Vous soumet le point, Sophie Binet.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que la dette, c'est pas mauvais en soi. Il y a une mauvaise dette et une bonne dette. La bonne dette, c'est celle qui permet d'investir dans l'avenir et d'éviter les politiques récessives. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas faire de coupes violentes, comme veut le faire le gouvernement, dans les dépenses publiques et dans les dépenses sociales, parce que ça va nous enfermer dans la crise. C'est ce qui se passe en Allemagne, où l'Allemagne est en grande difficulté à cause de ses politiques austéritaires. Mmh. Mais le problème, c'est que le gouvernement creuse une partie du déficit à cause de sa politique au service des plus riches.
Où en êtes-vous sur les négociations entre patronat et syndicats sur le nouveau pacte de la vie au travail? Vous savez, Emmanuel Macron, vous avez demandé de trouver un accord avec le MEDEF et avec les syndicats de patrons. Est-ce qu'un accord est encore possible? Sinon, vous connaissez la menace, c'est le gouvernement qui tranche.
La CGT tentera jusqu'au bout d'arracher un accord parce que c'est une négociation très importante pour des millions de seniors à qui on demande de travailler plus sans accepter de modifier leurs conditions de travail, de prendre en compte la pénibilité et de leur permettre des départs anticipés. Et donc, il faut centrer cette négociation sur les enjeux déterminants, à savoir empêcher les licenciements massifs de seniors, adapter les conditions de travail, permettre des départs anticipés pour pénibilité, permettre des retraites progressives et, par exemple, un temps partiel pour les seniors sans perte de salaire et avec cotisation à temps plein.
Le CDI senior qui est défendu par le MEDEF et la CPME, vous êtes contre. C'est ça, le blocage, il porte notamment sur ça. Il y a deux points qui portent problème, notamment le CDI senior.
Oui, le CDI senior, c'est un nouvel effet domaine. On avait connu notamment...
Qui est proposé aux chômeurs à partir de 60 ans et qui pourrait être interrompu une fois que le salarié a atteint l'âge pour une retraite à taux plein.
Oui.
Pourquoi vous êtes opposé ?
On avait connu le contrat première embauche qui est mort-né grâce à la mobilisation en 2006. Aujourd'hui, le MEDEF nous propose le contrat dernière embauche avec un CDI senior. Le problème de ce CDI senior, c'est que c'est uniquement un effet d'aubaine puisque le MEDEF veut faire payer une partie du salaire des seniors par de l'argent public ou l'assurance chômage. C'est inacceptable. Ce qu'il faut, c'est que le patronat prenne enfin ses responsabilités en matière d'emploi des seniors.
Sophie Binet, vos propos sur les JO, sur la grève éventuelle pendant les JO font réagir au standard et sur l'application. Pierrick, bonjour. Vous êtes l'un parmi les nombreux auditeurs qui veut s'exprimer sur le sujet. On vous écoute.
Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir en effet sur les Jeux Olympiques. Une des valeurs fondamentales des Jeux Olympiques, c'est la trêve. Depuis l'époque des Grecs, l'ONU même cette année appelle les belligérants du monde à faire une trêve. Mais vous, à la CGT, vous appelez à continuer le combat, même pendant les Jeux Olympiques. Est-ce que ça ne vous dérange pas ?
Merci, Pierrick. J'ajoute juste, Alice, je ne suis pas la seule à penser qu'il serait scandaleux de faire grève pendant les JO. Un peu de civisme serait le bienvenu. Yann, ras-le-bol total des grèves, c'est insupportable. Et même si vous pouvez avoir raison sur le fond, pas question de soutenir votre démarche pour les JO. Et Tristan, enfin, les grèves sont systématiquement réalisées durant des périodes très critiques, vacances, rentrées, JO. Les Français sont fortement pénalisés. Un service minimum, comme à l'hôpital, durant ces périodes, n'est-il pas nécessaire ? Voilà, je vous livre l'ensemble de ces interventions de nos auditeurs, Sophie Binet.
Alors d'abord, c'est pas vrai que les grèves sont systématiquement réalisées pendant ces périodes très critiques, c'est juste le seul moment où on en parle. Par exemple, ça fait 15 jours que les enseignants et enseignantes sont en grève dans le 93, personne n'en parle, alors que la situation est gravissime dans l'éducation dans le 93. Ensuite, sur la question des Jeux Olympiques, une des valeurs clés des Jeux Olympiques, c'est aussi... l'enjeu social et c'est quand même la moindre des choses que la France, qui est encore à l'échelle internationale un des pays de référence en matière de liberté et de droits sociaux, montre l'exemple. C'était tout l'objectif de la charte sociale des JO que la CGT s'est battue pour obtenir, de façon à avoir des Jeux exemplaires. Nous demandons seulement ça, avoir des Jeux exemplaires et arrêter que, au prétexte des Jeux, on demande aux travailleuses et aux travailleurs de travailler à n'importe quelle condition. Évidemment que les salariés veulent participer à la réussite des Jeux, mais pas au mépris de leur situation sociale et sanitaire.
Sophie Binet, un mot sur les jours heureux. Pour le 80e anniversaire de son adoption, Grasset republie le programme du Conseil national de la Résistance, précédé d'un texte que vous signez et qui est intitulé « Il est minuit moins le quart ». Dans ce texte, vous appelez notamment à vous inspirer du programme du CNR d'une grande modernité selon vous. Et vous écrivez « Il est minuit moins le quart, l'extrême droite ne cesse de gagner du terrain, tel un virus, elle envahit le corps social et se réplique dans chacune de ses cellules. Une à une, les digues politiques et morales sautent ». Quelle est votre explication sur l'ascension qui semble irrésistible du Rassemblement national, qui est donné à 30% dans les sondages, le RN qui semble, en tout cas à ce stade, attirer toutes les colères et tous les mécontentements? Pourquoi ?
Ce qui est frappant, c'est que c'est au moment où le gouvernement piétine l'héritage du Conseil national de la Résistance que l'extrême droite atteint des sommets. Ce programme du Conseil national de la Résistance, il a aussi été écrit comme antidote à l'extrême droite pour ne pas que le drame de la Deuxième Guerre mondiale se reproduise. Une antidote sociale avec des perspectives sociales collectives et notamment la sécurité sociale, les retraites, le chômage aussi qui en est l'héritier que le gouvernement est en train de piétiner aujourd'hui. L'indépendance de la presse qui est grave gravement remise en cause aujourd'hui avec des industriels qui rachètent les médias pour véhiculer leurs idées nauséabondes comme Bolloré. Et puis, l'héritage du programme du Conseil national de la Résistance, c'est aussi la digue morale entre les partis républicains et l'extrême droite.
Oui, la digue morale
que le gouvernement fait sauter avec sa loi immigration.
Donc pour vous, si le RN est si haut, c'est à cause du gouvernement, c'est ça que...
La responsabilité première, c'est la responsabilité du gouvernement, parce que l'extrême droite, elle prospère sur les cendres laissées derrière elle par la violence des politiques néolibérales qui sont celles du gouvernement.
Pourquoi les ouvriers, pourquoi les employés vont massivement chez Marine Le Pen et Jordan Bardella ?
Eh bien parce que aussi la gauche a déçu. Quand elle a été au pouvoir, elle a déçu puisqu'elle a eu des politiques qui ont accompagné les politiques néolibérales et qui n'ont pas proposé d'horizon en rupture avec des perspectives collectives. Aujourd'hui, le sujet sur lequel la gauche est attendue, c'est le lien entre le social et l'environnemental. Parce que l'extrême droite, elle prospère sur la mise en opposition de ces deux dimensions. C'est notamment ce qu'on voit sur la colère des agriculteurs. Pourquoi ? Parce que comme le capital refuse de modifier la répartition des richesses, les politiques environnementales se font sur le dos des plus pauvres. C'est aux plus pauvres qu'on demande de renoncer au diesel, de changer leur mode de vie, alors que le kérosène n'est toujours pas taxé.
Mais à votre avis, le Rassemblement National propose un programme économique qui n'est pas libéral, c'est pour ça qu'il attire les ouvriers et les employés ?
Le Rassemblement National...
Ou c'est un programme économique de gauche ?
Non, pas du tout. Le Rassemblement National a un fonctionnement attrape-tout avec des discours totalement contradictoires sur l'ensemble des questions. Sur les questions sociales, ce que je tiens à dire, c'est que le Rassemblement National, c'est le parti de l'imposture sociale. Nous avons analysé les votes de l'extrême droite au Parlement européen ou au Parlement français. À chaque fois que les droits des travailleuses et des travailleurs étaient en jeu, ils étaient soit aux abonnés absents, puisqu'ils brillent par leur absence, soit ils ont voté contre les réformes pour lesquelles nous nous battions. Notamment, nous nous sommes battus pour avoir un salaire minimum européen, très important pour éviter le dumping social européen, l'extrême droite a voté contre.
Rachida Dati a déclaré vouloir une gouvernance unique dès cette année pour l'audiovisuel public, France Télévisions et Radio France, une BBC à la française, comme elle l'avait dit à ce micro. Donc, aller très vite cette année. Ça, cette perspective, vous la voyez comment ?
Très négativement.
Pourquoi ?
La France a la chance d'avoir un audiovisuel public qui fonctionne très bien avec Radio France qui a des programmes de grande qualité et qui, en plus, a une audience qui ne cesse de progresser. Pareil sur France Télévisions. D'abord, pourquoi casser un outil qui fonctionne ? Et ensuite, en général, quand on dit fusion, ça se traduit par de la simplification et en matière d'information, attention danger. On est dans un contexte où l'information n'a jamais été aussi concentrée dans les mains de quelques milliardaires. On a besoin d'avoir un service public fort pour garantir le droit à l'information des citoyennes et des citoyens.
Elle dit que c'est pour renforcer le service public, justement, cette gouvernance unique. C'est pour copier l'exemple qu'on donne toujours de la BBC à la française où ça marche de l'autre côté de la Manche.
Oui, sauf que aujourd'hui le traitement d'informations par la radio et par la télévision n'est pas le même et c'est important d'avoir une pluralité du traitement de l'information pour ne pas avoir une information qui soit simplifiée. Moi je
Donc,
suis
ça
choquée.
Vous inquiète.
Ça nous inquiète fortement. Il va y avoir une grève à Radio France le 26 mars prochain pour laquelle ici je dis tout mon soutien parce que c'est pas seulement les salariés de Radio France qui sont concernés, c'est une simplification de l'information en général. Moi je suis choquée au quotidien que notre information soit toujours plus simplifiée. On entend la même chose partout. On a besoin de diversité pour couvrir la complexité du monde.
Mmh. Vous avez cité son nom. Vincent Bolloré est entendu aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Qu'attendez-vous de cette audition ?
Eh bien, ce que nous attendons, c'est que enfin les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités face à la dangereuse offensive que Vincent Bolloré conduit sur les médias, où il transforme des médias d'information en médias d'opinion, ce qui n'est pas du tout la même chose. La presse bénéficie d'aides publiques de façon très importante et elle devrait être conditionnée, ces aides publiques, à un certain nombre de conditions, notamment le respect de la déontologie des journalistes. C'est ce qui n'a pas été fait au JDD, à CNews, où on a imposé des rédactions en chef qui ne correspondaient pas aux journalistes. Et au JDD, l'exigence des journalistes d'avoir une charte qui bannisse des propos sexistes, racistes ou homophobes a été refusée, par exemple, par l'actionnaire. Eh bien, en cas de ce type de refus, on devrait exclure des aides publiques. Et puis, l'ARCOM devrait être beaucoup plus vigilant sur la différence entre l'information et l'opinion.
Merci.
C'est votre opinion.
Voilà. Merci Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.